Bienvenue sur Monnaie Libre, alors émission spéciale annonce des sixièmes rencontres des Monnaies Libres et je suis en direct au téléphone avec Cedjik, le développeur de Ucoin. Bonjour Cedjik.
Bonjour Stéphane, bonjour les auditeurs.
Alors on s'était quitté en janvier 2015 hein, sur la version de Ucoin 0.9.16. Aujourd'hui on est né à la 10.12, on va y revenir bien entendu. On parlera aussi dans cette émission de comment la communauté Ucoin s'étoffe et développe ses activités. Et puis, on parlera bien entendu des sixièmes rencontres des monnaies libres du 12 au 15 novembre à Valence. Très important, parce qu'il n'y en a que deux par an et celle-ci s'avère fort intéressante. Alors, pour commencer d'avoir cette émission, si tu veux bien, on va partir un petit peu du général pour parler un peu d'économie. Alors, depuis janvier 2015, qu'est-ce que tu as pu observer au niveau de l'économie et de la monnaie?
Mais écoute, disons que je ne suis plus forcément beaucoup l'actualité parce que bon, on comprend un peu le sens de tout ça. Donc bon, je vois que la Grèce est toujours de pire en pire. Je vois bien que il y a une récession qui s'installe depuis quelques temps déjà. Hein. Bon, on le savait, notamment parce qu'on écoute tous Monnaie Libre et qu'on voit David d'Immobilier d'Angers passer dans le coin. Et du coup, on voit le marché immobilier, c'est plutôt une bonne tendance, je trouve, pour observer l'économie. Quoi. Ouais. Donc, je vois que ça va pas très bien, ça va toujours pas bien, et puis j'en suis plus étonné. Quoi.
Alors, ça va pas bien, effectivement, et puis on voit passer aussi des économistes, on peut les appeler mainstream, ici ou là, dans des émissions, ou publier sur leur blog des analyses ou des tentatives d'analyse. On ne sait jamais d'où ils se positionnent exactement, s'ils cherchent à savoir comment protéger ceux qui ont de l'épargne, on se demande pourquoi l'économie devrait avantager ceux qui ont de l'épargne. Dans ce cas-là, ils font plutôt de la recherche de profit. Bon, c'est légitime, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça, sauf que ça ne peut pas intéresser une analyse économique générale qui devrait être neutre. Et notamment, alors, moi j'ai repéré un blog, je crois que tu as lu aussi, notamment un poste particulier qui s'appelle BNS, Banque Nationale Suisse, deux points, donc ce poste Inflation pour les uns et déflation pour les autres, de Liliane Eldkawan. Hein, vous pouvez trouver ce poste sur Internet. Inflation pour les uns et déflation pour les autres, Liliane Eldkawan. Vous allez trouver cet article en français. Je crois que tu l'as lu aussi. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait?
Ah oui, moi j'ai survolé, mais... qui me dit, si je me trompe, je pense qu'elle parle du fait que donc il y a des QE par exemple, ouais. Il y a beaucoup de monnaie pour les uns, voilà, les marchés entre guillemets, voilà, on voit beaucoup de monnaie passer, et puis bah nous, petite économie réelle, pour qui c'est la déflation, quoi. Ouais. Donc elle s'étonne un peu de ce constat.
Ouais, exactement, elle s'étonne de ce constat. Alors je vais lire le passage, si tu fais bien de le citer. Elle écrit: nous observons donc une hyperinflation au niveau de la bourse qui flambe de manière irrationnelle et inexplicable, d'une part, et d'autre part, une déflation, voire une récession dans l'économie réelle. Bon, ça c'est elle qui le dit. Alors, ce qui est très étonnant, moi ce qui m'a frappé dans cette phrase, c'est pas le constat qu'il y a une hyperinflation au niveau de la bourse et une déflation dans l'économie réelle. Moi, ça gêne pas un relativiste qui a étudié la théorie relative de la monnaie, je pense. Mais elle écrit de manière irrationnelle. Mais est-ce que ça te paraît irrationnel? Et elle dit même irrationnel et inexplicable. Est-ce que ça te paraît irrationnel et inexplicable?
Ah bah bien sûr que non. Alors, c'est clairement, c'est même évident en fait. Enfin, la façon dont fonctionne la monnaie dette, il n'y a pas de raison que ce soit autrement en fait.
Ouais, alors c'est-à-dire tu pourrais développer pour les auditeurs peut-être.
Alors, je viens développer, mais disons que c'est moi ce que j'ai constaté quand j'ai commencé à comprendre le fonctionnement de la monnaie. C'est que c'est bizarrement foutu en fait, puisque voilà, on appelle par exemple euro différentes choses. On appelle euro la monnaie interbancaire, c'est-à-dire la monnaie que s'échangent les banques entre elles pour faire leur règlement. On appelle euro les billets et les pièces. On appelle euro les crédits émis par les banques. C'est ce qu'on voit sur notre compte en banque, hein, quasiment. C'est par exemple la Société Générale, on a des euros Société Générale et on appelle ça euro. Donc ben, c'est compliqué quoi de s'y retrouver là-dedans. Et moi ce que je constate, c'est que effectivement les crédits sont remboursés, il y a de moins en moins d'argent qui se prend d'argent. On appelle ça de la monnaie maintenant. C'est l'argent, c'est autre chose. La monnaie est émise par des banques, voilà, elle est remboursée à l'occasion des remboursements de crédit, et donc l'histoire est donc ça sèche. Par contre, la monnaie centrale, elle, c'est pas exactement la même chose. Ça disparaît pas aussi vite. Et surtout, ils émettent de la monnaie pour acheter leur propre, comment dire, des crédits souris, mais je sais pas comment appeler ça. Et bon, ils injectent la monnaie dans leur système, mais nous, on voit pas la couleur. Nous, on fait quelques crédits, on rembourse, et la monnaie disparaît, quoi.
Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un rajout de monnaie pour les uns, et forcément, ça influe sur la mesure, et un retrait de monnaie pour les autres, où il y a un remboursement de crédit qui s'effectue dans ce qu'elle appelle l'économie réelle, mais en fait, dans certaines parties de l'économie, pas dans toutes. Et donc, là où les crédits sont remboursés, il y a de moins en moins de monnaie, du coup, qui circule. Bon, c'est pas très difficile, c'est comme si on avait finalement un désert et puis une montagne, quoi, voilà. Et sur la montagne, c'est comme si on rajoutait de la terre, en quelque sorte, tout le temps, et qu'on creusait encore plus dans le désert. Donc c'est de plus en plus bas dans le désert et de plus en plus haut sur la montagne. Et évidemment, ça, c'est le mécanisme qui est en cours actuellement, et qui consiste finalement aussi à avoir une unité de mesure des valeurs économiques, la monnaie, qui se retrouve être un instrument de mesure faussé, car modifié, de façon illégitime, on pourrait dire, si on considérait que cette monnaie était commune, ce qu'on peut refuser de considérer. On peut tout à fait considérer qu'il ne s'agit pas du tout de monnaie commune, il s'agit d'un bon d'achat d'un cartel privé, finalement. Ils ont le droit d'émettre un bon... à la limite, ils ont le droit d'émettre des bons d'achat. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on l'utilise, nous, comme instrument de mesure, comme on pourrait utiliser, je ne sais pas moi, des bons d'achat monoprix, finalement, pour tout chiffrer... dans les comptes des entreprises, dans le prix du pain, le prix d'une maison, le prix d'une année de massage, j'en sais rien, n'importe quoi, on pourrait tout à fait chiffrer ça en bon d'achat monoprix.
On l'appelle du même nom que la monnaie émise par la banque centrale. Enfin, c'est...
Oui, alors en plus, on appelle la monnaie émise par les banques publiques. Oui, mais si on considère que la banque centrale fait partie du cartel, personne n'a dit que c'était une banque publique. C'est écrit nulle part, en fait, ça. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, quand on voit les choses telles qu'elles se passent, il faut se poser la question sur la nature de ce qui est observé. Il ne faut pas avoir des a priori sur la chose. Je crois que, par exemple, la Banque Centrale Européenne n'apparaît nulle part dans la Constitution française. On ne sait pas ce que c'est, cette entité, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas d'a priori à avoir sur l'appartenance ou pas de cet ensemble d'entreprises qui émettent des bons d'achat. Ils ont le droit d'émettre des bons d'achat. Ce qui est étonnant, disons, c'est qu'on l'utilise pour mesurer toutes les choses avec. Voilà. Au lieu d'utiliser autre chose ou une unité de mesure qui soit bâtie différemment. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein. Et donc ce poste est très intéressant pour ça, parce que ce poste donc de Liliane El-Kawad, je trouve, inflation pour les uns et déflation pour les autres. Alors c'est une Suisse, elle parle de la Banque Nationale Suisse, mais c'est vrai aussi en zone euro, parce qu'elle s'étonne de quelque chose qui lui semble irrationnel, inexplicable, alors que c'est tout à fait rationnel et parfaitement explicable. On rajoute des unités de mesure, donc forcément ça influe sur les prix là où les unités de mesure sont rajoutées, et pas du tout là où elles ne le sont pas. Voilà, donc déjà ce principe-là. Mais de voir que c'est une économiste, elle est diplômée d'économie en Suisse, et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Donc c'est là que là on est devant peut-être le cas typique, en fait, de ce qui... le point aveugle, finalement, de ce qui est le point aveugle de tout le discours économique qu'on peut entendre, y compris sur des chaînes de médias qui se présentent comme des chaînes traitant de l'économie et qui le plus souvent sont finalement des vitrines pour des vendeurs de papier, quoi.
Hein, voilà, oui, c'est ça, parce qu'elle n'est pas du tout la seule à tenir ce discours.
Eh oui, elle n'est pas la seule à tenir ce discours, effectivement. Il y a des chaînes économiques en France, je ne vais pas citer les noms, mais enfin, on peut deviner.
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, en fait. Depuis le début que je m'intéresse à l'économie, jamais je les entends parler du fond de l'affaire, quoi. Ils utilisent un jargon, mais derrière ce qui se passe mécaniquement,
il y a deux raisons. C'est soit parce qu'ils l'ignorent véritablement, ils savent pas que ça existe, ils savent pas que la monnaie influe sur les prix, et la création monétaire notamment influe sur la structure de l'économie de façon violente, de façon très importante, pas absolue, pas totale, mais très importante. Et ça, c'est un premier point, ils l'ignorent, et ou deux, ils le savent, mais ils savent qu'il vaut mieux pas en parler. Voilà, donc Donc voilà, mais je pense que la plupart l'ignorent en fait, si on les écoute bien. Je pense qu'ils croient. Alors c'est un problème d'ailleurs qui va nous amener à l'autre point sur l'économie générale que j'avais envie de discuter un peu avec toi. Ils croient qu'il y a, quand on dit que là il y a des valeurs économiques, ça c'est du travail, etc., qu'il y a bien une mesure véritable qui s'établit. Voilà, on est sûr que ceci est de la valeur parce que elle a un prix, par exemple sur la bourse, ou elle a un prix sur le marché. Quand on va le dimanche au marché, il y a un prix, donc c'est de la valeur parce qu'il y a un prix. Mais que la nature du prix, c'est-à-dire la nature de l'unité de mesure, notamment, qui a servi de référence pour établir ce prix, est liée à la chose elle-même, elle n'est pas extérieure à la chose. C'est comme si la monnaie n'existait pas, finalement. Voilà. C'est comme si la monnaie était un crédit débit entre les gens, en quelque sorte. Il y en a qui croient ça, d'ailleurs, on peut écouter, hein, des gens aussi qui ont compris un peu qu'il y a un problème sur la monnaie, mais qui croient qu'il s'agit d'un pur crédit débit où le nombre serait absolu, mais on ne sait pas d'où il sort, ce nombre, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer quelque chose, finalement. En science, on le sait depuis longtemps, enfin on le sait depuis au moins un siècle, hein. On peut pas, et puis en physique, on est encore plus précis que ça, on peut pas mesurer quelque chose si on n'a pas établi la base de référence physique, expérimentale, qui permet d'établir la base. Par exemple, je l'ai déjà expliqué sur une conférence, mais pour le degré Celsius, il n'a pas été établi n'importe comment. La chaleur, on comprend à peu près ce que c'est, le degré Celsius est très précis, il y a 0 degré Celsius quand l'eau devient glace, et 100 degrés Celsius quand l'eau bout. Voilà, donc c'est par rapport à l'eau. Voilà, c'est par rapport à l'état de l'eau qu'on a bâti les degrés Celsius. Voilà, et après, à partir de ça, on a bâti des thermomètres qui représentent les différentes graduations entre 0 et 100 degrés. Par exemple, on l'a fait avec du mercure. Mais on a vérifié que 0 et 100 correspondaient bien à l'eau qui devient glace et ou l'eau qui bout pour 100. Alors évidemment, si je chauffe le mercure ou que je le refroidis avant d'aller faire une mesure d'un objet, ben forcément, la mesure sera pas la même, parce que le thermomètre, il va apporter sa propre chaleur à l'objet, ou il va enlever de la chaleur à l'objet, s'il est plus froid, et donc forcément, la mesure en sera impactée. Voilà. Donc bouger la monnaie va bouger les prix, va bouger les mesures. Et donc ils en parlent comme si elle n'existait pas, comme si c'était un nombre absolu, comme si, par exemple, les degrés Celsius aussi étaient absolus. Mais si on est sur Mars, la température à laquelle l'eau refroidit et l'eau bout, elle peut être définie, mais c'est pas les mêmes conditions de température et de pression. Donc ça ne se fera pas dans les mêmes circonstances expérimentales pour avoir le même résultat. Bref, parce qu'il n'y a pas la même gravité, il n'y a pas la même atmosphère, etc. Donc si on ne comprend pas ce principe d'avoir défini la valeur de référence qui sert à la mesure et les processus qui vont établir ces relations entre mesures, évidemment, on a un problème. On croit à un chiffre qui serait... évident, donné, sans référence à quelque chose, et ce quelque chose étant la monnaie, bien entendu. Alors, ça m'amène aux deux points pour conclure cette partie sur l'économie en général, que je discutais avec toi, c'est des nouvelles un peu des associations qui traitent du revenu de base et du salaire à vie. T'as suivi un peu cette année, on a fait des émissions d'ailleurs là-dessus.
Oui, alors le salaire à vie, oui, je vois qu'en plus, il a plutôt le vent en poupe, en fait, hein, sur le net. Plusieurs blogueurs ou personnes réalisant des vidéos en font d'ailleurs des vidéos très bien réalisées. Alors moi je les ai pas regardées parce que le salaire à vie depuis le début j'ai même pas compris comment est-ce qu'on pouvait accepter l'idée d'être mis dans une case. J'ai buté là-dessus et je comprends pas qu'on puisse déjà accepter ça. Mais pourtant beaucoup de repartages de ces vidéos, discussions, j'ai pas regardé. À mon avis, ça doit pas voler très très haut parce que c'est tellement évident pour moi. Mais enfin, encore une fois, disons que j'ai commencé, ça fait quand même 3-4 ans que j'étudie la monnaie, et donc pour moi, ça devient évident. Mais un nouveau venu, voilà, on comprend pas encore ce que c'est que la monnaie. On lui parle de salaire, tout le monde lui parle de salaire, sa famille, ses amis, on parle du travail. Bon, là, le salaire à vie, ça paraît une idée séduisante, comme ça, quand on comprend pas ce qui se passe en dessous.
Oui, alors, il y a deux choses. Tu viens de dire un premier terme, tu pourrais développer, tu as parlé de cage.
Ouais, de case. On entrait dans une case, c'est-à-dire que donc, le salaire à vie, en fait, ça consiste à attribuer à une personne, en rémunération de son travail, voilà, un salaire fixe, tous les mois. Peu importe que cette personne soit dans les services, c'est-à-dire que réalise des programmes informatiques ou soit commerçant, quoi qu'il fasse, il aura le même salaire. Par exemple, toute l'année, il va toucher 1600 euros, voilà. Et puis plus tard, on décidera, donc c'est en fonction de ses compétences. Hein. Alors, compétences jugées par qui, on ne sait pas trop, mais jugées sur ses compétences, et donc ses compétences évoluant, son salaire peut évoluer aussi, toujours de manière décidée, arbitraire.
Alors évidemment, voilà, c'est toujours pareil ici, comme tu disais là, il faut bien appuyer là-dessus, c'est que faut être plus précis, à mon avis, que ce que tu dis. C'est pour ça que je veux rajouter quelque chose, c'est que s'il y a effectivement jugement de qualification, c'est par des hommes, il ne faut pas oublier ça. Donc il va y avoir un groupe d'hommes qui va décider de la qualification des autres hommes. Donc si on remonte cette chaîne-là, qui décide de la qualification des hommes qui qualifient ? Donc c'est, voilà, et évidemment il y a un problème bien sûr de position privilégiée, déjà, qui est ignoré parce qu'on ne veut pas en parler, bien sûr, sur ce sujet-là. Et alors il y a un deuxième point aussi, c'est que bien sûr, logiquement ça ne tient pas non plus, c'est-à-dire mathématiquement ça ne tient pas non plus. Alors c'est très simple, de toute façon il suffit de faire l'expérience d'un jeu. Il n'y a qu'à jouer au jeu Gigonomicus justement, avec le prétendu salaire à vie entre guillemets, et voir comment ça pourrait fonctionner. Et en fait c'est très clair, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que puisque, évidemment, le problème c'est que l'analyse se fait depuis un certain point de vue, c'est-à-dire les gens qui défendent ça sont la plupart des fonctionnaires. Bernard Friot est fonctionnaire, il était professeur d'université. Et alors il a beaucoup, il peut avoir bien sûr beaucoup de soutien sur cette idée-là par derrière, parce qu'il a formé pendant des années des gens à l'université. Donc il y a eu beaucoup d'élèves en quelque sorte. Et donc pendant des années. Donc il y a des centaines, voire des milliers d'élèves qui ont assisté à ces cours sans doute. Voilà, bon bref. Donc forcément,
oui, ils peuvent se poser des questions quand même.
Ah, mais bien sûr, ils peuvent se poser des questions, mais tout le monde s'en pose pas forcément. Et puis quand on connaît quelque chose, a priori, on peut y adhérer sans se poser la question forcément dans les détails, etc. Mais tout simplement, le problème, c'est qu'on voit toujours la question du point de vue, je touche mon salaire, et puis donc je peux acheter des choses. Très bien. Mais celui qui vend, pourquoi il vendrait puisque son salaire ne sera pas impacté par cette vente ? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ce mécanisme de, entre guillemets, salaire à vie, en fait, est neutre, c'est-à-dire qu'il ne joue pas sur les échanges. Que je vende ou que je ne vende pas, j'aurai mon salaire. Je ne dis pas que les gens vont produire ou pas produire, je ne dis pas que les... Justement, il touche juste, je pense, à mon avis, dans le salaire à vie, sur la notion d'inconditionnalité du travail et de la valeur. Personne, justement, ne peut juger du travail et de la valeur. Mais s'il dit personne ne peut juger du travail et de la valeur, déjà, comment il fait pour accepter le fait qu'on puisse juger de la qualification ? C'est une valeur aussi. Donc c'est très curieux, c'est qu'il voudrait que ce soit vrai pour tout sauf pour ça. Il veut créer une caste de privilégiés qui ont un salaire plus grand que les autres. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. C'est que le salaire à vie n'est pas le même pour tous. Il y en a qui en toucheront 3, 4 fois, 5 fois plus que le plus bas. Mais dans l'idée, donc, il crée comme ça un grade de ça doit, parce que ça doit ressembler, je pense, à la hiérarchie du système fonctionnarial français, étatique.
C'est quand même beau parce que transmettre des idées hiérarchiques à travers un réseau horizontal, c'est beau quand même.
Ouais, enfin, c'est... Alors bon, oui, mais c'est comme ça. Alors bon, alors évidemment, ça pose un gros problème à ce niveau-là, tu l'as signalé. Mais logiquement, ça ne tient pas non, de toute façon du tout.
Ça tient dans le sens où il n'y a pas besoin de monnaie en fait.
Il n'y a pas besoin de monnaie, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient à faire du troc. Parce que du coup, ça n'impacte pas du tout les flux. Voilà. Alors, il explique, ah, mais celui qui vend, il a besoin de toucher la monnaie parce que ça lui permet d'acheter la consommation intermédiaire. Il avait répondu ça. Alors, il n'a pas étudié ce qu'on appelle mathématiques, on appelle le raisonnement par récurrence. Si quelque chose est vrai à une étape N, il est intéressant de voir si elle est vraie à l'étape N plus 1. Alors, la monnaie en plus, je m'en sers pour pouvoir acheter la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la matière première, en gros, qui me sert à fabriquer l'objet que j'ai vendu. Il faut bien que la matière première vienne d'ailleurs. Bon. Alors, mais celui qui va me vendre la matière première, encore une fois, pourquoi il vendrait ? C'est que la même question se pose tout le long de la chaîne que l'on doit remonter jusqu'au bout. Ça ne tient pas une seconde. Qu'il le donne son objet ou qu'il le vende, ça ne change rien. Donc du coup, la monnaie est inefficace puisque ça fonctionne aussi bien si les gens acceptent spontanément de donner leurs objets, puisque le vendre n'impacte pas aucun membre de la chaîne. Et donc, à partir de là, on comprend que cette monnaie qui est versée à tous de façon inconditionnelle, mais toujours de la même façon, qui n'accepte aucune variation, puisque tout surplus sera repris, et tout moins sera renfloué. Donc, on rééquilibre tout de toute façon s'il y a un déséquilibre. Donc, du coup, ça n'impacte rien. Mais du coup, cette monnaie n'a pas d'impact économique. Elle ne sert pas à faire des échanges. Mais donc, du coup, il n'y a pas de prix qui peut s'exprimer dans cette monnaie. Parce que si la monnaie ne sert pas à faire des échanges économiques, s'il y a pas, si c'est pas une valeur intermédiaire d'échange, eh bien, simplement, elle ne peut pas servir de base pour les prix. Les prix sont totalement impossibles dans cette monnaie. Alors, sauf à compter un monde où toutes les valeurs seraient connues, rangées dans des cases, il n'y a pas d'innovation, et on sait ce qu'il faut produire, et on produit que ça, et le premier qui dépasse, on lui interdit de le faire.
C'est un joli monde.
Oui, mais je crois que c'est un peu ça l'idée. Je crois qu'ils ont de l'économie, une vision, réifiante, c'est-à-dire que fondée sur ce qui existe. En ne comprenant pas que ce qui existe aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui existait il y a 30 ans. Voilà. Et qu'à un moment donné, donc je pense qu'il y a un problème de logique, tout simplement. Ça tient pas. Il suffit de faire un raisonnement par récurrence. Simplement, ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, je pense qu'il faut simplement inviter ceux qui ont encore des doutes, mais qui n'arrivent pas par la simple réflexion, à dire mais faites un jeu Géconomicus. Géconomicus, ça peut se jouer à 10 joueurs. On l'a déjà testé. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. On va parler des 6e rencontres des monnaies libres. Ça peut se jouer à 10 joueurs et on a déjà pu simuler monnaie dette, monnaie libre, ben pourquoi pas un salaire à vie, faites-le. Nous, on n'a pas envie de le faire parce qu'on sait que ça n'a aucun intérêt. Ça va être une usine à gaz, ça va prendre la journée pour un résultat qui va être catastrophique. Donc, on veut bien y jouer, par contre, s'il y en a qui propose de jouer. Hein.
je regarderai.
Donc, bon, bref. Et alors, sur le revenu de base, est-ce que tu as des choses à dire sur cette année, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe?
Mais je crois que l'actualité, je crois que c'est où? Il y a une région, c'est pas l'Aquitaine, là, qui va mettre en place un revenu de base, me semble-t-il.
Oui, un RSA inconditionnel, je crois.
Oui, c'est ça, un RSA inconditionnel. Donc, bon, quelque part, l'idée progresse, mais bon, c'est pareil, là, c'est dans quelle monnaie? Et donc, le problème, c'est que si on implémente un revenu de base dans la monnaie dette, et ben, à la fin, on arrive à la conclusion que ça marche pas. Donc, c'est le problème, puisque, en fait, il y aura toujours le problème des crédits qui sont remboursés. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des crédits pour qu'il y ait de la monnaie. Donc, si on rembourse tous nos crédits parce qu'on a un revenu de base, il n'y a plus de monnaie, donc il n'y a plus de revenu de base possible, donc ça ne marche pas. Tu vois?
Eh oui. Mais bon, le problème, c'est qu'il peut...
Et donc, le revenu de base serait une mauvaise idée. Voilà.
Oui, voilà. Ben, c'est ça le truc. C'est que ce qui risque de se faire, oui, c'est bien sûr, c'est que les expériences risquent... Comme ces idées de revenus de base sont basées sur un principe de je prends ce qui existe pour le redistribuer, bah s'il n'y a rien, ben je pourrais me prendre.
Oui. Okay. Mais le pire, c'est qu'il suffit que cette idée que le revenu de base est inutile ou contre-productif pour qu'on perde une génération. Parce que l'idée va se répandre et puis on va dire bah non, ça sert à rien, le revenu de base c'est nul, on va perdre une génération et quand je dis une génération, c'est 80 ans là. Donc du coup, les nuisances vont se perpétuer. On aura toujours 5 millions d'enfants qui meurent chaque année de faim. Enfin, voilà, c'est ce genre de bêtises, quoi.
Oui, et ça fait, comme tu dis, ça fait quasiment 60 ans que des gens comme Louis Even, hein, Louis Even déjà avait un peu à peu près compris le truc avec le crédit social. Là. Et, le crédit social, c'était un crédit déversé à tous. Bon, il n'avait pas mis ça en rapport exactement avec la monnaie, avec l'espérance de vie, etc. Mais le principe était là, en tout cas. Et on est 60 ans plus tard, ça n'existe toujours pas, quoi. C'est-à-dire que voilà, le problème de ces approches, évidemment, c'est que ça veut remplacer l'existant plutôt que de booter, j'ai envie de dire, un nouveau système. C'est comme si on attendait que, comme j'ai déjà dit, que Microsoft libère son code, finalement, plutôt que de développer un logiciel libre comme GNU Linux. Voilà. Donc la preuve est là, c'est que GNU Linux existe et Microsoft n'a toujours pas libéré son code.
Oui. Hein? On a tendance même à dire que GNU Linux, c'est... Donc plutôt Microsoft est en perte de vitesse et que Linux gagne en popularité.
Oui, en plus, bon, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que initialement, ils n'ont pas attendu que les logiciels non libres se libèrent. Voilà, ils ont commencé à écrire un système d'exploitation libre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et c'est comme ça que c'est.
Oui, il y a une grosse inertie avec le système existant, surtout de la taille de Microsoft. C'est perdre son temps.
Oui.
Perdre une énergie folle pour tenter de changer quelque chose.
Oui, exactement.
C'est plus simple.
Ouais. Alors il y a une inertie économique, parce qu'il y a les flux économiques existants, puis une inertie aussi intellectuelle, hein, c'est-à-dire que tant que les idées qui vont avec finalement persistent, durent, le système dure aussi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il vaut mieux essayer de changer d'état d'esprit, donc démarrer quelque chose à neuf, et en plus qu'il soit fait avec évidemment des fondements, je dirais, mieux établis, quoi. Voilà. Parce que c'est toujours pareil, c'est que si on essaie de... C'est pas pareil de faire un patch sur un logiciel existant pour lui faire faire un truc qu'il faisait pas au départ, que d'avoir un logiciel pensé pour faire cette chose-là.
Mmh.
Ouais, tu es d'accord avec ça?
Ah oui. c'est clairement plus compliqué d'adapter un logiciel déjà existant à une tâche qui n'était pas supposée faire. Enfin, c'est très simple à penser par exemple avec une voiture et une fusée. On voit bien qu'on ne conçoit pas les choses de la même manière et que bon, ça ne sert à rien d'essayer de faire devenir une fusée
qu'on
a conçue dans une voiture, quoi.
Oui, et on prend pas un fiacre pour faire une automobile, ça ne fonctionne pas bien non plus.
Bon, voilà.
Et même les roues, tu remarqueras, même les roues, on ne peut pas les prendre.
Il n'y
a rien à prendre, en fait. Oui, c'est... On a gardé le terme, par contre, chevaux. Hein. On a des chevaux dans le moteur, mais ça reste un mot.
Oui. mais tu sais, j'étudie un peu en ce moment un peu des sciences. Là, j'écoute, par exemple, Étienne Klein, et je trouve que là-dessus, il a un raisonnement qui me plaît. C'est de dire que, par exemple, pour exprimer la relativité restreinte d'Einstein ou d'exprimer la physique quantique, il ne faut pas utiliser les mots de la science qui existait à l'époque. Parce que pour exprimer des nouveaux concepts, utiliser le langage existant, c'est, comment dire, mener à une incompréhension. Parce qu'on ne peut pas dire des nouveaux concepts avec les anciens. Enfin, c'est, comment dire, c'est une espèce de biais. Et donc là... Là, c'est un peu pareil pour la monnaie. Disons qu'on a besoin de voir autrement, pas de penser avec les anciens concepts.
Ouais, d'où le terme d'ailleurs monnaie libre, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est qu'au départ, c'est pas du tout un terme utilisé. Alors d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a dit que soi-disant le terme était utilisé avant que la TRM en parle. Non, je crois pas, jamais. En fait, ça a jamais été utilisé avant. On n'avait jamais à coller les deux. On n'a jamais pensé que la monnaie pouvait être libre, mais encore faut-il définir ce que ça signifie, bien sûr. Donc c'est pas un concept qui circulait du tout. Hein. Et certains ont essayé de le coller au Bitcoin, par exemple, mais ça marche pas. Hein. C'est-à-dire que le Bitcoin est un projet libre, sans doute, mais c'est pas une monnaie libre. Donc, très bien. Alors, écoute, si tu veux, on va faire une première pause musicale.
Oui, très bien, oui.
Et puis, on se retrouve...
Avec une musique libre.
Voilà, exactement, avec une musique libre. Et on se retrouve juste après, alors tu vas nous parler plus longuement, cette fois de YouCoin. Hein. On va parler expérience YouCoin toute cette année avec le MetaBrosouf, tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses intéressantes puisqu'on a fait un proof of concept opérationnel, hein, donc avec une monnaie qui tourne et qui tourne toujours hein, depuis mais tu nous le diras, hein, je crois que ça fait depuis 400 ou 500 ans en fait. Simulé.
Un peu moins.
Donc on va voir ça et on parlera un petit peu la communauté YouCoin qui s'étoffe. Donc voilà, et on finira pour les sixièmes rencontres des monnaies libres. Alors, donc à tout de suite après cette première pause musicale sur Monnaie Libre.
Thank you.
Et nous voici donc de retour avec Cedjik, toujours avec nous.
Donc, oui, c'est toujours là.
Voilà. Donc, Ucoin, alors maintenant 0.12. Alors, vas-y, raconte, hein, parce que là, alors, c'est toi le patron, là, tu vas nous expliquer. Hein. Parce qu'on s'était quitté 0.9.16 en janvier. On avait déjà une monnaie de test qui avait été lancée vaguement. Je crois que ça s'appelait Etabrozouf ou quelque chose comme ça. Et alors là, on a eu des. Alors, vas-y, raconte.
Alors, oui, on s'était quitté donc en janvier dernier. Donc, on était effectivement en 0.9. Donc, c'était le Zeta Brozouf à l'époque, avec un Z. Et donc, j'avais annoncé qu'on lancerait une autre monnaie qui s'appellerait le Meta Brozouf cette fois-ci. Donc, on partait de zéro, on créait complètement la communauté, on recréait complètement la monnaie. Et donc, elle tourne toujours. Ça fait donc depuis fin janvier, ça fait donc 9 mois. Alors, elle a des paramètres un peu précis, parce que c'est une monnaie de test. Le but, c'est de dire un an égale une journée. Donc, ça fait. On a pris un taux de 10% de croissance de la masse monétaire. Donc, chaque jour, la masse monétaire croît 10%. Voilà. Donc, ça fait pas mal de mois. Donc, je crois qu'on a passé les 200 ans, probablement plus, de simulation. On a eu pas mal de membres qui sont passés. Alors, la durée de vie d'un membre, si je puis dire, bon, c'est défini par rapport aux règles, hein, de test, mais bon, je crois qu'on a eu environ 80 à 100 personnes qui sont passées sur la monnaie, bon, qui sont parties puisque c'est une monnaie de test et que, bah, pour eux, elle n'a pas de valeur, hein, elle n'a pas vocation à en avoir. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de monde qui est passé dessus, ça nous a permis de voir les fluctuations de la masse de monnaie, de voir comment elle se répartit. On peut voir qu'effectivement, de manière en moyenne, on converge vers justement la masse monétaire moyenne par membre. On a pu faire ce genre de constat, on a pu trouver des bugs, on a pu justement les corriger du coup. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. On a des membres qui nous ont rejoints pour le développement.
Oui.
Voilà, donc ça fait... aujourd'hui, je compte plus vraiment le nombre de personnes qu'on est parce que bon, il y a un cœur actif peut-être d'une dizaine de personnes, dont certains plus actifs plutôt dans le développement. Il y a toujours des personnes qui passent, qui donnent une petite contribution, que ce soit de la traduction, que ce soit du développement, que ce soit de, tu sais, le logo.
Oui.
Voilà. Bon, il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent. Là, donc on est en octobre, je comptais en fait terminer cette monnaie de test avant la fin de l'année. En fait, j'espérais qu'il y ait un bug qui ne s'est pas produit, donc ou alors il va se produire dans pas très très longtemps, qui est que les nombres, la monnaie de base, on va dire, les unités quantitatives deviennent trop importantes pour l'informatique.
Oui.
Et donc voilà, il pensait y avoir une espèce de bug de l'an 250.
Oui.
Et bon, ça c'est pas produit, mais de toute façon on va arrêter cette monnaie puisque on arrive à une phase de développement où on voudrait vraiment faire des changements assez profonds dans les règles, et donc ça va plus être compatible. Donc c'est des règles que j'exposerai lors des prochaines rencontres, en novembre prochain là. Mais donc voilà, la monnaie va s'arrêter.
D'accord. Donc tu vas faire aussi, oui, des règles qui vont faire tourner les nombres, c'est ça, pour éviter qu'ils le...
Bah. On y voilà, justement, c'est ça, c'est que là, tu vois, le dividende universel que j'ai reçu encore, c'est quand c'était lundi, le dernier que j'ai regardé, il faisait 1 tera mètre Brozouf. Donc c'est des millions de millions.
Ouais. Alors que ça sert à rien, en fait, d'avoir des chiffres aussi gros, ça c'est pas utile.
Voilà, c'est ça, d'autant que, mais du coup, ça a l'avantage de nous faire passer tout de suite en mode relatif, parce que compter en tera mètre Brozouf, ça n'a pas beaucoup de sens.
Bien sûr.
Mais par contre, dès qu'on passe en relatif, ben alors là, tout c'est clair.
Ben, en relatif, ça change jamais, quoi. C'est-à-dire que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les chiffres sont les mêmes.
Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, on peut aller voir sur le site, donc c'est www.metab.ucoin.io, et en fait, il y a les graphes de la monnaie.
Oui.
Et donc, là, notamment, on peut y observer la monnaie en mode relatif.
Alors, pour les auditeurs, qu'est-ce que tu appelles en mode relatif?
Bah, c'est-à-dire que donc tous les jours il y a un dividende qui tombe, enfin plutôt qui est coproduit par les membres, donc de la nouvelle monnaie, et en fait, et qu'on compte en fait la masse monétaire, en, les métabrosouf, on les divise par ce dividende. On donne des unités dites relatives, un peu comme en, euros, on pourrait compter en nombre de RSA. Voilà.
Ouais.
Et ça permet, d'avoir une unité quasiment invariante, en fait, puisque les membres, ça dépend du nombre de membres, en fait. S'il y a des entrées de membres, s'il y a des membres qui partent, ça fait un peu varier ce nombre, mais globalement, il reste stable, et donc ça permet de comparer plus facilement, puisque les unités ne bougent pas. Et c'est un peu ce qu'on disait au début, par exemple, les prix dans l'économie, aujourd'hui, ils varient. On ne sait pas trop pourquoi. Le problème, c'est que quand il y a beaucoup de monnaie qui arrive, et ben voilà, il y a une tendance à l'inflation qui fait que les prix varient. Mais il n'y a pas que ça. Les marchands peuvent aussi faire varier leurs prix parce qu'ils veulent vendre plus cher. Là, dans une monnaie libre, quand on compte en relatif, l'injection de nouvelles monnaies ne crée pas d'inflation quand on compte en relatif.
Ouais.
Ce qui permet de pouvoir voir clairement si le prix a évolué pour une raison, mais certainement pas pour l'injection de monnaie.
Voilà, c'est-à-dire que dans une monnaie libre, bien sûr, comme il y a un dividende, on peut appeler ça un invariant relativiste, parce que, quel que soit l'homme, présent ou futur, le dividende vaudra toujours 10% de la masse monétaire. Et bien comme le dividende est perçu par tous, ou coproduit par tous pour être plus précis, chacun sait ce que c'est aussi, puisque voilà, il a ça qui arrive sur son compte de façon régulière, donc il sait ce que c'est, il peut l'utiliser. Donc comme unité à la fois de vente ou unité d'achat, et donc la masse monétaire est limitée forcément à 10 dividendes. Si le dividende vaut 10% de la masse monétaire, ben, il y a 10 dividendes dans la monnaie, et donc s'il y a 10 dividendes dans la monnaie tout le temps, eh bien, les prix doivent tenir compte d'une monnaie finalement qui ne change pas. C'est-à-dire que bien qu'on rajoute un dividende tout le temps, en fait, en quantitatif, c'est-à-dire dans l'unité sous-jacente, en fait, mais en relatif, dès qu'on passe dans le référentiel relatif, ça n'apparaît plus. En global, la monnaie, la masse monétaire ne change pas. Par contre, ça change bien sûr sur les comptes de façon différente selon l'état des comptes, mais l'état des comptes dépend aussi de l'âge des personnes. C'est ça que ceux qui analysent le problème ne comprennent pas. C'est que l'homme n'est pas éternel, il naît, il vit, il meurt sur 80 ans. Tu as parlé de 250 ans tout à l'heure, c'est-à-dire 3 fois 80 ans.
Oui.
80 ans, c'est l'espérance de vie humaine. Et donc, ben, l'homme, le temps qu'il vive, en fait, voilà, il va recevoir un certain nombre de dividendes. Et ça ne dépend pas de l'année où il sera né. Qu'il naisse aujourd'hui, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. Ce principe, en quelque sorte, est immuable. Il ne change pas d'époque en époque non plus. Il ne change pas. Donc, dans l'espace, les hommes tous reçoivent le dividende. Et en plus, selon les époques, ils recevront le même nombre de dividendes. Tout le long de leur vie, voilà. Donc ce principe est vrai à la fois dans l'espace et dans le temps, voilà. Et donc la masse monétaire ne peut pas influer sur les prix. Ce qui influe sur les prix, c'est autre chose. Donc si les prix vont changer, et les prix changeront bien sûr, pourquoi? Parce que notamment il y a des valeurs économiques, eh bien, qui meurent entre guillemets, et puis des valeurs économiques qui naissent là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles valeurs économiques, et puis il y a des anciennes. Eh bien, les anciennes en général disparaissent, elles sont remplacées par des nouvelles. Voilà, qui sont meilleurs ou qui en remplacent d'anciennes qui sont plus utilisées. Voilà, on n'utilise plus des fiacres, on utilise des automobiles. On n'utilise plus de machines à écrire, on n'utilise plus de télévision, on n'utilise plus de radio, on utilise Internet. C'est que... enfin, pas tous encore, hein. Mais c'est en cours. Voilà. Alors ça aussi, ils n'arrivent pas à comprendre que ce principe-là, forcément, ben oui, il fait disparaître d'anciennes valeurs, mais il y a une nouvelle valeur qui monte. Mais non, c'est le net qui prend la place, hein, bien sûr. Voilà.
Donc, juste, je voulais rajouter, donc, en moyenne, en fait, on a tourné à peu près 20 membres, là, depuis, enfin, 20 membres permanents, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se renouveler. Alors, il y a une petite part, peut-être 5-6 membres qui partent régulièrement, et 5-6 membres qui arrivent,
ouais,
de nouveau. Donc, là, il y a un espèce de roulement, il y a un flux, hein, flux d'humains. En l'occurrence, donc, on tourne à peu près à 20 membres permanents, donc, ça fait même très exactement 200 dividendes de monnaie,
ouais,
en permanence. Alors, il y a des petites variations de membres, donc il y a des petites variations de monnaie, mais globalement, ça reste stable. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la monnaie Metagrosouf.
D'accord. On peut considérer que c'est un succès en termes de proof of concept, opérationnel. On a pu faire des virements de compte à compte. Le système est P2P. On peut créer plusieurs nœuds. Il y a eu plusieurs nœuds aussi, hein, je crois bien.
Oui, on a fait tourner le réseau à plusieurs. Bon, là, on l'a fait tomber, hein, mais il est revenu, hein, il n'est pas mort. Non, mais c'est pour ça qu'on voudrait en faire une nouvelle, c'est qu'on voudrait changer certaines règles du protocole et pour que ce soit un peu plus robuste. Et puis, on aimerait aussi que, comment dire, aller moins vite, avoir une monnaie qui puisse prendre un peu plus de valeur, parce que là, tous les jours 10%, hein, c'est gigantesque. Hein.
Donc tu voudrais passer à une monnaie pseudo-opérationnelle, alors ?
Bah c'est ça, mais faut pas que ce soit trop, parce que sinon on risquerait de l'utiliser. Donc ce serait embêtant. Parce que là, elle favoriserait énormément les nouveaux entrants, les plus jeunes.
Oui.
Donc c'est pas le but non plus. On veut, c'est des monnaies qui soient à l'échelle de l'humanité, on va dire, en termes d'âge. On ne peut pas exclure certains. Ce ne serait pas cohérent avec notre discours. Et... Donc, ouais, une monnaie qui, par exemple, je dis ça comme ça, un dividende. Alors, il peut être versé tous les jours, mais le taux serait beaucoup plus faible, journalier, histoire que la monnaie puisse avoir un semblant de valeur. Voilà. Donc, ça, j'aimerais le lancer d'ici fin d'année, voire tout début 2016, selon l'avancement.
D'accord. Et tu penses par contre qu'en termes de technique, je dirais, le système est suffisamment robuste maintenant pour tenir suffisamment longtemps, quoi.
Ah oui, bah alors tenir, ça c'est pas le problème. Hein. Disons que les nœuds sont autonomes, hein. ils peuvent tenir tranquillement, faire leur petite ligne, il n'y aura aucun souci là-dessus. Mais disons que la difficulté c'est de faire émerger un consensus. C'est-à-dire que pour définir la monnaie, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. On n'est pas obligé d'être d'accord sur les valeurs, mais la monnaie, on est obligé. Sinon, on ne peut pas mesurer les valeurs. C'est là tout ton discours. Et donc, on a besoin de se mettre d'accord à un moment, et c'est là la difficulté technique. Parce qu'on est sur un réseau, on peut avoir des coupures, on peut avoir des gens malveillants, on peut avoir énormément de choses qui peuvent survenir. Donc, c'est faire face à tous ces problèmes qui sont compliqués.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, là, en l'occurrence, le réseau doit faire deux choses principales. D'abord, établir la zone de confiance, c'est-à-dire définir les identités des membres qui coproduisent leur monnaie. Et cette monnaie, une fois produite, il faut pouvoir l'identifier, être sûr que c'est de la monnaie et que ceci n'en est pas. Et en plus, dernière chose, pour dire à qui appartient la monnaie. Telle ou telle monnaie, voilà, telles unités. Voilà, ça c'est les missions principales. Et bon, déjà, ça fait un paquet de boulot, quoi.
Oui.
Voilà, donc c'est pour ça que, bon, on a quand même besoin de personnes, parce que moi tout seul, bon, j'avance dans mon coin, mais la plupart des contributeurs, en fait, on n'est pas au chômage, on a tous un boulot euro à côté, donc. Le temps de cerveau disponible qu'on a, c'est surtout le midi ou le soir, voire le matin pour certains. Mais le problème de ce mode de contribution, c'est qu'on a le cerveau rincé à la fin de la journée.
Ouais.
On n'a pas du tout la même efficacité. On est fatigué, donc on n'avance pas vite.
Oui, bien sûr, évidemment. Donc ça, mais ça, c'est un problème général. Je crois qu'en fait, on ne peut pas, de toute façon... On ne peut pas aller plus vite que la musique. Je veux dire, si les hommes veulent une monnaie libre, c'est possible, comme je l'ai souvent dit, mais il n'y a rien qui le force. Ça dépend des hommes. Voilà. C'est possible.
Mais... C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui viennent contribuer, hein, et qui font leur petit potager.
Ça nous fait une excellente transition, puisqu'on va pouvoir parler des contributions qui ont eu lieu sur YouCoin aussi, et sur le sujet des monnaies libres en général. Avec on n'a pas parlé, hein, tu n'as pas dit de mots encore sur les clients YouCoin, Qtcoin et YouCoin Apps. Sixième rencontre des monnaies libres, donc c'est des sujets qu'on va aborder lors de ces sixième rencontres. On va donc en parler un petit peu ici en introduction. Et on a une traduction de la théorie relative à la monnaie en anglais, alors avec un nombre de contributeurs conséquent. Hein, je crois qu'il y a 10 à 15 traducteurs qui se sont affairés pendant plusieurs mois pour finaliser cette traduction en anglais. C'est fini, c'est fait. Il reste encore à le publier proprement. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi ça traîne, ça, cette histoire-là, mais bon, ça viendra peut-être. Et puis, on a aussi des contributeurs qui font des présentations, alors de YouCoin, du sujet des monnaies libres, sur la monnaie en général, mais présentant les monnaies libres en particulier, voilà, sur des salons, des rencontres comme Alternativa ou les rencontres autour des sujets du logiciel libre ou autre. Voilà, donc des contributions très importantes. Un logo, tu en as parlé, il y a un logo YouCoin maintenant qui arrive. Alors, tu envisages aussi de changer le nom du logiciel. Alors, du coup, le logo, ça risque être à revoir, du coup. Mais bon, peu importe. En tout cas, il y en a un. Voilà, en tout cas, ça montre que voilà, il y a la volonté d'apporter sa patte au projet. Le forum est très actif, hein, le forum de YouCoin, je trouve. Hein,
oui.
J'aime bien y aller parce que les contributions sont de qualité. Il y en a parfois qui n'hésitent plus à faire des maths. Pour faire un peu de maths, pour essayer d'expliquer comment fonctionne une monnaie libre, c'est pas des maths inaccessibles, hein, mais ça, c'est vrai que ça demande quand même effectivement un peu de travail, un peu de réflexion, un peu de pratique. Il y aura d'ailleurs, hein, on aura aussi en compte des monnaies libres le jour du jeu Gécoinomicus pour ceux qui ont déjà joué, parce que si on n'a pas joué, il faut d'abord jouer, c'est très important pour comprendre comment deux systèmes monétaires différents donnent des économies différentes. Mais il y aura à côté un atelier pour travailler véritablement les nombres relatifs à la monnaie, que ce soit en quantitatif, en relatif, changer de référentiel en général, pour s'habituer à bien comprendre ce principe qui est essentiel. Il faut absolument comprendre que le changer le point de vue sur une chose change l'apparence, mais ne change pas la chose. Il faut savoir changer de point de vue et imaginer et essayer de comprendre ce qu'on voit en changeant de point de vue. Voilà, on ne voit pas la même chose, donc on transforme la vision. Alors, voilà, donc les contributions YouCoin, et puis donc qui seront présentes au FMM6, les clients, alors vas-y à toi, les clients, notamment alors les clients YouCoin, tu n'en as pas parlé.
Alors les clients, donc y a toujours QtCoin, hein, donc porté par INSO principalement, avec Vit qui a participé à toute la partie, tu sais, affichage de la toile de confiance pour voir qui sont les membres. Alors QtCoin, je vais pas trop en parler parce que c'est pour les FMM6, ils nous préparent ça bien comme il faut. Mais bon, qui a beaucoup changé, qui va notamment changer graphiquement un peu. Les fonctions aussi évoluent. Bon, c'est vraiment très pratique, hein, QtCoin. Je veux dire qu'il fait ça très proprement en plus, INSO. Donc, alors d'ailleurs, il fait d'autres choses aussi. Il participe notamment à accueillir les nouveaux entrants. Il y a des développeurs qui l'accueillent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent, participer. Alors, notamment à l'utilisation de librairies qui utilisent QtCoin. Je pense aussi à aux nouveaux entrants, ils participent. Alors il y a Vite aussi qui. Alors je saute un peu là, je parle plus que du logiciel, mais c'est vrai que tu as parlé des conférences. Je sais qu'il y a Vite, donc qui participe au développement de QtCoin, qui lui fait des conférences.
Ouais.
Alors il a notamment présenté à Alternativa. Alors c'est Rambouillet, près de Paris. Il a fait une présentation de YouCoin QtCoin. Il a participé une autre à Montpellier. Je pense qu'il a fait sa présentation aussi bien orientée CRM que logiciel.
Oui.
Il y a aussi Sophrani qui a fait une présentation qui va la faire, je ne sais plus, à Sénart. Je crois qu'il l'a faite. Ouais. Mathieu Bise et Pêche aussi qui ont fait une autre conférence à Alternativa, je crois que c'est au Havre.
Voilà, oui, Mathieu, hein? Alors on l'a eu sur le dernier monnaie, Mathieu Bise, il est allé au Havre. Avec donc Page, tu dis, alors ça je sais pas qui c'était exactement, mais sans doute oui, et aussi à Toulouse où apparemment donc c'était aussi très très bien. Il nous a donné d'ailleurs une belle anecdote à écouter, hein, je vais pas la raconter ici, mais c'est à écouter dans le Monnaie Libre précédent. C'était marrant et c'était, puis je crois que c'était intéressant. Voilà, donc c'est bien de faire des présentations, des conférences sur les sujets parce que ça. En essayant d'expliquer aussi, on améliore sa propre compréhension parce qu'on est obligé d'essayer de simplifier ou de donner des axes d'explication un peu nouveaux, essayer d'être un peu original. Et donc on améliore aussi le langage et l'explication qui va avec autour du sujet. Hein.
Et puis c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait quand même quelques vagues de nouveaux inscrits en fait, qui venaient des conférences Alternativa après avoir rencontré Vite, Sophrani, Mathieu Bise ou Page.
Ouais.
Voilà, ils viennent à ce moment-là. Donc c'est des gens qui sont quand même intéressés, intrigués. Et puis qui sont déjà un peu sensibilisés, du coup.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est un travail que j'ai du mal à faire, mais bon, il y en a qui sont plus doués que moi pour ça, donc je les remercie de le faire. Donc voilà pour les contributions, pour certaines contributions. En autre logiciel, donc après QtCoin, il y a aussi YouCoin Apps, donc qui est une application Android. Niveau avancement, je ne sais pas trop à quel point c'est avancé. Je sais que Kimamina travaille toujours dessus. Je sais qu'il y a une personne qui le rejoint en développement. Je sais qu'une autre personne qui était avec lui a décidé de faire son petit jardin à lui. Il fait ses expérimentations. Donc, du coup, on a deux applications Android qui se ressemblent, mais qui ne sont plus vraiment pareilles. Donc, c'est aussi très bien parce que ça permet à chacun d'avoir l'application à son goût. Si on a d'autres. En logiciel, c'est à peu près tout. Il y a aussi SB qui a fait un petit outil pour nous, qui passons régulièrement sur le chat, qui a fait un petit outil pour qu'on puisse visualiser les logs, parce qu'on dit beaucoup de choses et pour éviter de se répéter, on peut aussi aller chercher dans les logs. Et, voilà. C'est une petite contribution, mais vraiment importante pour nous.
Bien sûr.
Il y a des contributions, donc tu l'as dit, sur la TRM qui a été traduite. Alors là, moi j'étais soufflé parce que j'ai participé un petit peu, mais la TRM a été traduite, je trouve, en un petit laps de temps, en fait, parce que ça a duré un peu longtemps, mais il y a un moment où, je sais pas, les personnes se sont énervées et ont tout traduit d'un coup. Je pense que c'est assez énorme. Et c'est une traduction qui n'est pas professionnelle, c'est-à-dire qu'on est, c'est avec notre niveau d'anglais, mais ça permet déjà de renvoyer des anglophones vers la TRM.
Oui.
J'ai déjà fait. Il y a quelqu'un qui est plutôt économiste, par exemple, qui a été un peu sidéré quand il est tombé là-dessus. Vraiment fan. Bon, depuis, il est parti. Je pense qu'il est en train de méditer. Mais voilà, on peut commencer, grâce à ce travail, à passer le mot à des non-francophones. Il y a eu ça, il y a eu donc de la TRM en détail, de lancer Emmanuel, son nom de famille.
Emmanuel Bulto. Alors Emmanuel Bulto, qui est qui est docteur en mathématiques, qui est venu au FMM5, qui d'ailleurs a explosé le jeu Géconomicus, hein, c'est lui qui a eu les meilleurs résultats.
Ouais,
il était déjà très très bon. Et qui est belge, hein, et qui a fait un gros travail de reformulation de la théorie relative à la monnaie, ce qu'on doit faire quand on a bien compris quelque chose, c'est on le démontre bien et on le propage d'autant mieux qu'on le réinterprète soi-même. Voilà, il vaut mieux refaire le travail, c'est ce qu'il a fait. Il a retravaillé la théorie relative à la monnaie de son point de vue de mathématicien et un peu d'économiste, parce que s'il vient sur ce sujet, c'est que ça l'intéresse, c'est l'économie. Mais avec une formation donc de mathématicien. Il y a déjà une belle partie mathématique dans la TRM et toute une partie mathématique, mais chaque mathématicien a son propre langage, ses propres façons d'expliquer. Et il a trouvé des formules d'ailleurs très pertinentes. Alors on n'en a pas encore parlé, mais c'est normal, on fera un monnaie libre bientôt avec Emmanuel Bulto pour parler justement de son travail sur la théorie relative à la monnaie et sur son avis aussi sur les projets Ucoin, bien sûr, et sur la suite, et notamment aussi donc sur sa façon d'interpréter la TRM, de l'expliquer, puisque chacun, c'est normal, a des petites variations, où il y a des points qui vont expliquer de façon différente, et ça éclaire mieux le sujet, qui mérite d'être expliqué de points de vue différents, en accord avec ses principes. Hein, voilà.
Donc voilà, il y a donc son travail, il y a aussi des contributeurs qui ont donc fait un logo. Alors il y a eu beaucoup de logos hein, de proposer. J'en ai pris un parce que c'est vrai qu'on n'avait vraiment pas de logo et c'est compliqué quand on n'a pas d'identité visuelle. Je préférais au moins en prendre un, quitte à ce qu'on le change plus tard. Une contribution qui nous a bien servi. Et donc, tout ça pour dire que au FMM6, j'ai pris la décision en fait de faire une conférence plutôt orientée client, c'est-à-dire que je vais exposer les principes techniques en vue de que les contributeurs puissent créer leur client, leur application. Parce que en fait aujourd'hui il y a Qtcoin, il y a Uconapps, mais c'est pas forcément expliqué. C'est pas forcément beaucoup expliqué en fait. C'est plus on a discuté sur le chat, c'est comme ça que j'ai transmis jusqu'à aujourd'hui les informations. Mais voilà, c'est un travail un peu laborieux qu'on fait INSO vite et Namila et tous les autres. Donc voilà, là je vais faire des présentations. Ce sera un peu interactif pour qu'on puisse nous poser des questions et qu'on puisse donc un peu industrialiser, si on veut, cette phase de création de clients, quoi, pour que chacun puisse arriver, faire son petit client, faire son petit jardin, comme tout le monde, Voilà, le but, c'est que on s'approprie Ucoin, qu'on s'approprie APRM. Enfin, le logiciel, c'est très bien pour ça.
Oui, bien sûr, le logiciel, c'est idéal même pour ça. Il n'y a rien de mieux que l'algorithmique et l'informatique pour s'approprier des mécanismes de cette nature. Alors FMM6, ces points, donc FMM6 pour Freedom Money Meeting, mais on peut appeler ça aussi RML, rencontre des monnaies libres, à pas confondre avec RMLL, qui sont les rencontres mondiales du logiciel libre. Voilà. Même si une monnaie libre est d'autant plus libre qu'elle repose sur un logiciel libre, c'est quand même deux sujets qui sont effectivement différents. Alors, les sixièmes rencontres, donc du 12 au 15 novembre à Valence, donc il y aura bien sûr, tu viens de le dire. Allô,
oui, donc le premier jour ce sera moi,
ouais.
Qui ferai le point. Le jour suivant, c'est je pense INSO, Kimamila, qui vont faire leur présentation des clients, donc c'est d'autant plus intéressant,
oui.
Qu'ils vont pouvoir faire des retours d'expérience aussi.
Bien sûr, on pourra faire un retour d'expérience, donc ça va être très intéressant. Alors, ces deux jours-là dont tu viens de parler, c'est pour les informaticiens, donc si vous n'êtes pas informaticien, c'est vraiment ça ne vous concerne pas, il faut vraiment être informaticien pour participer là, parce que ça va parler... données, protocoles, voilà, c'est technique. Hein. Quand on vient travailler sur les logiciels Ucoin, Qtcoin, c'est-à-dire le cœur du réseau, il faut déjà avoir totalement intégré la notion de monnaie libre. On n'en est plus là, on en est à faire du logiciel, donc c'est vraiment les étapes bien après. Alors, par contre, le samedi, donc, il y aura le jeu Géconomicus. Alors, Géconomicus, alors, tu disais en début d'émission que. Faut pas parler de la physique avec les termes qu'ils employaient au début pour essayer de parler de choses nouvelles. Il vaut mieux employer des concepts nouveaux pour parler des choses nouvelles. Effectivement, c'est assez juste. Alors, Géconomicus démarre par une lettre nouvelle. Hein. C'est un G avec un trait par-dessus. Hein. C'est un G libre. Je l'ai appelé G libre. Alors, c'est pas une lettre tout à fait nouvelle. C'est utilisé en mathématiques, mais pour d'autres sujets. Hein, voilà, ça a un autre sens. En mathématiques, on utilise plein de symboles. Plus ou moins bizarres, qui ont des sens précis pour les mathématiciens, en physique aussi d'ailleurs. Voilà, donc on utilise par exemple en physique beaucoup la lettre psi, par exemple, la lettre grecque psi, bon, c'est pas une lettre française, mais voilà, c'est une lettre grecque, mais on utilise phi aussi, plein de lettres anciennes, ou même des lettres modifiées, bon, bref. Mais là, Géconomicus, donc, avec un G libre, donc c'est une simulation économique, donc sur 80 ans, c'est-à-dire sur l'espérance de vie humaine ou plus, avec l'idée de le faire avec plusieurs systèmes monétaires. Alors c'est un jeu qui va évoluer, et notamment une version plateau va voir le jour. Hein.
Ah, super,
ouais, c'est nouvelle. Oui, une version plateau verra le jour, mais alors je la mettrai au point que quand une monnaie libre sera là, parce que l'idée c'est d'en faire une version plateau qu'on pourrait justement commercialiser, mais en monnaie libre. Parce que sinon, ça serait pas cohérent. Voilà, c'est-à-dire on pourrait la proposer sur un marché, on pourrait proposer le plateau sur un marché établi en monnaie libre. Donc voilà. Donc on n'en est pas là, mais ça approche. Voilà, ça viendra d'ici 40 ou 50 ans, au plus. Voilà. Et voilà, c'est ça aussi. Mais bon, un jeu plateau est possible, il faut réfléchir aux concepts les plus simples. Alors c'est pour ça que j'y prends du temps à réfléchir à ça. Il y a un dépôt GitHub pour contribuer d'ailleurs à Géconomicus, si vous voulez rejoindre ce projet qui est en... Pour l'instant, il y a juste un peu l'explication des règles, des billets qui ont été aussi faits en SVG pour faire des explications, des démonstrations, des choses comme ça. Pourquoi pas des impressions si on a envie d'imprimer des billets en couleur. Bref, mais voilà, donc si vous voulez contribuer à ce jeu, si ça vous intéresse de contribuer à un jeu qui va mettre en évidence le principe d'une monnaie libre... et voire même de plusieurs systèmes monétaires, donc puisque c'est le but du jeu, sur un plateau, j'ai déjà quelques idées, mais c'est pas fini, il y a des choses à faire, et donc voilà, il y a des choses à réfléchir, si ça vous intéresse, pour faire des jeux. On pourrait en faire un jeu informatique, bien sûr, aussi. Voilà, ben, ça serait très intéressant, parce que ça permettrait de se former à l'impact qu'a un système monétaire. On pourrait imaginer le jeu, tu vois, par exemple, au début du jeu, on choisit d'abord quel système monétaire, avec quel système monétaire on joue. Un peu comme la belote, où il y a plein de variantes possibles. On peut jouer à la belote sans annonce, la belote avec annonce, la belote contrée, la belote coinchée. Voilà, il y a plusieurs variantes, et la stratégie n'est pas du tout la même selon la variante. Ça s'appelle toujours belote, mais c'est pas la même belote.
Ouais, c'est déjà présent. Oui.
Voilà, alors là, on pourrait choisir l'option du système monétaire au début, et après, la partie se déroule, et on verrait bien aussi... les différences de résultats. On les voit déjà dans le jeu, nous ça suffit hein, d'y jouer une ou deux fois pour comprendre à quel point ça impacte terriblement le système monétaire choisi. Voilà, donc ce jeu Jeconomicus. Et alors je crois qu'on... Alors oui, il y aura aussi donc, en parallèle donc de ce jeu, qui est plutôt pour les débutants, un atelier d'approfondissement de la théorie relative à la monnaie sur tableur. Donc il faut venir avec son PC portable, sur un tableur libre, LibreOffice Calc, ce qui est le mieux, ou un tableur non libre, c'est moins bien. Mais un tableur qui permette de simuler, je montrerai des exemples, on regardera des cas, puis on regardera même des cas réels dans l'économie, pour faire des graphes avec des tableurs, et donc mieux comprendre ce que signifie la fausse interprétation quantitative et l'interprétation relative qui est plus proche de quelque chose de qui est plus proche de l'homme, tout simplement. Hein. Je dirais pas plus vrai, mais plus proche de l'homme. Voilà, donc... et puis alors le dernier jour aussi, il y aura des présentations prévues, je crois même que, d'ailleurs que Vite hein, va faire des présentations. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui. Je ne sais pas qui est prévu d'intervenir exactement, mais de toute façon, il y a le programme qui est disponible sur c'est connex-asso.net.
Voilà, enfin bon, vous allez sur le blog YouCoin de toute façon, sur le blog de youcoin.io, hein, faut pas se tromper, et là, tu as mis déjà des liens vers l'organisation qui donc se fait à Valence, hein, Valence dans la Drôme, hein, c'est pas Valence en Espagne. Hein. C'est Valence dans la Drôme, c'est en France, voilà. Donc c'est si vous êtes à Lyon, Montpellier, Nîmes, Nice, Marseille, Toulouse, pourquoi pas. Bon, c'est sans doute peut-être plus facile d'accès que Paris, par exemple. Mmh. Voilà, c'est quand même plus proche. Il y a des trains en plus qui vont facilement. Et depuis Paris, c'est pas difficile non plus, puisqu'il y a un train qui va direct. Voilà. Donc, alors. Quel autre sujet tu voudrais, peut-être pour finir, Cédric ?
Quel sujet ? Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, plutôt. Évidemment, j'aurais des choses à dire, mais j'y pense pas maintenant, donc tant pis.
Tu penseras une autre fois. Donc, voilà, donc on se donne rendez-vous du 12 au 15 novembre, tu y seras, bien sûr.
Ah oui, les 4 jours, oui.
Voilà, j'y serai aussi. Moi, j'y serai les 6 jours, parce que je vais arriver la veille, je partirai sur le lendemain. Donc... Ouais. Bon voilà, donc on finit là-dessus. Donc je crois qu'on a fait une belle émission, on a fait un joli tour. Donc pour ceux que ça intéresse, allez sur YouCoin, découvrez le principe, lisez la théorie relative de la monnaie, essayez de comprendre. Il y a des vidéos aussi qui comprennent le principe. Et après bon, vous l'adoptez pas, c'est un autre sujet, bien entendu. On n'est pas à dire que tout le monde devrait adopter une monnaie libre. Il y a parmi les hommes certains qui n'envisagent certainement pas de le faire, et il ne s'agit pas de forcer personne. Hein. Voilà. Voilà, faut bien comprendre le principe de liberté de ce point de vue. Voilà, mais merci Cédric pour cette émission.
Merci Stéphane.
Donc merci de nous avoir suivis dans cette émission Monnaie Libre spéciale donc Cédric YouCoin, projet YouCoin. Et puis on a parlé donc économie. Communauté et 6e rencontre des monnaies libres à Valence du 12 au 15 novembre. Je vous laisse, au revoir, je vous laisse avec notre générique fétiche sur Monnaie Libre, No More Dreams de Nighter. Au revoir.